Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. C'est un véritable bonheur, une véritable joie pour moi de faire cette interview aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord parce que je reçois un auteur ou une autrice, comme bon vous semble, comme vous le voulez, que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert grâce à une belle saga sur les qui s'appelait Les Déracinés, une saga en 4 volumes, et je suis sûre que la plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous l'ont lu. Là, on la retrouve pour une histoire, l'histoire d'une femme qui personnellement m'a beaucoup émue, une histoire qui malgré elle fait l'histoire parce que les personnages qui l'ont entourée ont fait l'histoire de son pays. C'est une belle écriture, Catherine Bardon, une belle écriture fluide, riche aussi en orthographe, en grammaire, beaucoup de syntaxe, une belle écriture fluide. On sent l'érudition, la connaissance et la culture, et ça fait du bien. Vous savez, comme dirait un proverbe maasai, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Bonjour Catherine Bardon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier ouvrage, La fille de l'ogre, aux éditions Les Escales. Alors, je le disais, je suis sûre que bon nombre de nos auditrices et auditeurs vous connaissent pour votre saga Les Déracinés qui ont un succès fou et qui raconte l'histoire de ces exilés juifs, entre autres, en pays de République dominicaine. Pays que vous affectionnez particulièrement, que vous avez découvert il y a de nombreuses années. Et suite à ça, vous êtes allé à la rencontre, vous allez nous dire comment, à la rencontre de votre héroïne, la fille de l'ogre, Flore Deoro. Racontez-nous comment vous êtes venue à rencontrer votre héroïne, la fille de l'ogre.
Alors, rencontrer, c'est un...
Oui, rencontrer.
Parce qu'en fait, je ne l'ai pas rencontré physiquement,
oui,
mais comment
je
l'ai
c'est ce que je voulais dire.
Exhumée, oui. Découverte. Je savais depuis longtemps que Flore avait été la première épouse du célèbre playboy Porfirio Rubirosa,
oui.
Qui a écrit ses mémoires comme playboy, sur lequel...
Mi-diplomate, mi-espion, etc.
Voilà, sur lequel ont été tournées des séries,
oui.
Qui est un personnage un peu mythique, puisqu'on dit que c'est lui qui a inspiré Ian Fleming pour son personnage de James Bond.
Donc, pareil, oui.
C'est vrai, un espion un peu diplomate, un peu gigolo, un peu...
Et époux de Daniel Darieux. Époux de Daniel Darieux.
Oui, époux de Daniel Darieux, qui a d'ailleurs une histoire très très liée à la France, puisque
oui.
Deux de ses 5 épouses étaient françaises,
et
qu'il a été, qu'il est mort à Paris,
à Paris, à Boulogne,
à Marne-la-Coquette. Bref, donc ce personnage est un personnage assez fascinant. On l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, il est fascinant et c'est un personnage mythique. Et je savais qu'il avait été marié en première noce à la fille aînée du dictateur Trujillo. Cette dictature est une dictature singulière qui m'a toujours intéressée, sur laquelle j'ai beaucoup lu. Et donc, j'ai eu envie de savoir qui était sa première épouse et de connaître cette femme, de comprendre pourquoi il avait été marié avec elle. Connaissant le zèbre avec rayures, pour le coup, je pensais que c'était un mariage d'intérêt. Et finalement, il s'avère que c'était un mariage d'amour entre deux jeunes gens, puisqu'elle l'a épousé à 17 ans.
Elle a 17 ans, lui, il avait 23. Oui.
Voilà, donc c'est un mariage qui a eu lieu un petit peu, on leur a un petit peu forcé la main, on les a un petit peu précipités vers le mariage.
Oui.
Mais en tout cas, c'est un vrai coup de foudre entre eux. Et c'est une belle histoire d'amour qui démarre. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie de Flore.
Et une histoire d'amour, enfin, un amour qui perdurera tout au long du temps. Je pense, enfin, moi, j'ai ressenti ça jusqu'à la disparition de l'un et de l'autre, de toute façon. Alors, Flore Deoro, donc, c'est la fille du dictateur de 1930 à 1961, le réfé Raphaël Dutrio.
Trujillo.
Et c'est une petite fille qui est très attachée à ses parents, à sa maman. Sa maman et puis son papa, elle veut lui plaire, elle veut toujours lui faire plaisir. Et puis bah, c'est un homme ambitieux, il est parti de rien, il veut y arriver, il veut être à la tête de son pays. Elle n'aura de cesse tout au long de sa vie de vouloir lui plaire, entre les humiliations, Les je t'aime, moi non plus. À chaque fois qu'elle fréquente un homme, il faut absolument qu'elle l'épouse. Elle a eu 9 époux. 9 époux, dont je crois un Français, il y a eu un chirurgien, un pédiatre, un musicien aussi. D'ailleurs, le chirurgien à New York, si ma mémoire est bonne, l'a un peu sorti du trou. Ça a été une femme fracassée tout au long de sa vie. Elle n'a jamais été maître de son destin. Il a toujours été là, le père.
Elle n'a jamais été maître de son destin, pas plus d'ailleurs que n'ont été maîtres de leur destin les 3 millions de Dominicains qui vivaient sur cette moitié d'île à l'époque, puisque Trujillo a pris les rênes du pays et il a pris la gouvernance, on peut dire, de la vie de chacun. Oui. Donc c'était un tyran pour son pays, mais c'était également un tyran domestique pour sa famille et pour les membres de sa famille, qu'il voulait absolument honorable, qu'il voulait surtout à la hauteur de son ambition et qui finalement n'arrivait jamais à lui plaire suffisamment. Il était toujours déçu par ses enfants et notamment par Flore. Flore, en plus, qui va être, dès sa naissance, finalement affectée d'une espèce de malédiction, c'est-à-dire qu'elle porte en elle tout ce qu'il voudrait oublier. Elle porte en elle
le sang africain,
une goutte de sang noir et lui est profondément raciste et déteste les Haïtiens qui vivent de l'autre côté de la frontière. Oui. Elle porte en elle ses racines plébéiennes, puisque c'est une petite campagnarde. Elle porte en elle tous les souvenirs de sa jeunesse qu'il voudrait oublier, puisqu'il se veut un lettré, lui qui n'a aucun diplôme. Et puis, elle a aussi en elle l'ombre de sa sœur morte. Elle a une petite sœur qui est morte de fièvre tropicale à l'âge d'un an, et que son père n'a pas pu sauver. Donc, il y a une espèce de noirceur comme ça autour de Flore, en tout cas dans les yeux de son père. Et elle ne sera jamais, finalement, à la hauteur de ce qu'il veut, de ce qu'il imagine elle et ce qu'il voudrait pour elle, et surtout elle sera toujours son jouet, c'est-à-dire qu'il entend vraiment depuis son enfance gérer sa vie, voilà, comme il gère toute la vie de chacun chacun dans son pays.
Alors justement, il l'envoie en pension à la 9 ans en France parce qu'il veut en faire une petite fille, une jeune fille, une jeune femme accomplie. Donc elle y va bon gré mal gré parce qu'elle veut plaire, et de toute façon elle a pas le choix. Elle va beaucoup apprendre les langues, l'équitation, bref, ça va devenir quelqu'un de complet. Ça va devenir aussi quelqu'un de cultivé et d'érudit. Tout au long de sa vie, elle va rencontrer des personnages qu'elle a plus ou moins envie de rencontrer, notamment durant la période nazie de l'Allemagne, et ça va pas trop lui plaire. Et puis aussi, tous les hommes qu'elle a rencontrés lui ont apporté à chaque fois quelque chose, mais il y a eu aussi beaucoup d'intérêt, notamment ce milliardaire brésilien. Mais ce qui est triste, moi, ce qui m'a souvent touchée, c'est que finalement ça a été une marchandise, ça a été quelque chose que l'on négociait en échange de ça. C'était terrible aussi.
Oui, parce que sa malédiction, c'est de porter aussi le nom de son père et d'être la fille d'eux. Et donc, elle ne saura jamais vraiment, si on s'intéresse à elle pour ce qu'elle est, ou si on s'intéresse à elle parce qu'elle est la fille du chef, et avec tout ce que ça peut comporter d'honneur, d'argent, de pouvoir à la clé. Et donc effectivement, elle aura toujours une confiance limitée dans les hommes qu'elle rencontrera et dans ses époux, parce que finalement, d'une part, beaucoup de ses mariages ont été imposés par son père, et puis d'autre part, elle ne sait pas si c'est elle qu'on aime ou ce qu'elle représente. Et ça, c'est vraiment une déchirure profonde et quelque chose qu'elle n'arrivera jamais, même après l'assassinat de son père, et ces deux mariages après l'assassinat de son père, elle n'arrivera jamais à savoir qui est la personne qu'on épouse.
Peut-être que, à part avec le chirurgien, je crois qu'il est son troisième mari après Ruby Rosa, le pédiatre, ce chirurgien qui la trouve un petit peu mal dans l'ascenseur de son immeuble, et puis qui durant la guerre va mourir apparemment bêtement en s'endormant avec sa cigarette, il va brûler. De toute façon, son père n'avait aucune emprise sur ce chirurgien, il avait pas besoin de lui demandait rien.
Oui, mais ce qu'on ne sait pas et ce qui entra toujours son esprit, Flore, c'est la question, est-ce que c'est un accident, puisque son père était coutumier des assassinats des faits d'hommes de main, d'espions et de malfrats qu'il employait donc pour éliminer ses opposants politiques, ou que ce soit même en dehors du territoire dominicain. Donc elle aura toujours ce doute qu'il a en train. D'ailleurs, il y aura une enquête de la CIA à propos de ce décès. Et finalement, Et ben, ce doute, ça, c'est quelque chose qui c'est un ver dans son cœur.
Oui, c'est un venin. Ouais.
Voilà, c'est quelque chose qui restera en permanence au tapis, au fond d'elle. Et quelles que soient finalement ses amitiés, ses amours, il y a toujours ce doute d'abord de savoir pourquoi on est ami ou amoureux d'elle, et de savoir aussi si cette amitié ou cet amour va plaire à son père, aura l'honneur
de plaire à son père.
Voilà. De plaire à son père et d'être connue comme telle ou pas, et elle aura toujours une vie finalement sociale et amoureuse qui sera sous la coupe en fait de son père.
Bien sûr, oui. Alors il y a cet amour, on le disait, avec son premier amour, Porfirio Rubirosa, mi-diplomate, mi-espion, et il faisait partie de la garde rapprochée quand elle l'a rencontré de son père. Ils se sont mariés, ça a été la belle vie, ça a été de belles années. Mais enfin, chasser le naturel, il revient au galop. Il a ensuite continué finalement un peu sa vie de nos sœurs, de sortir le soir, les filles, une claque par-ci par-là, un peu violent aussi. Elle a fini par divorcer à contre-cœur, mais tout au long de sa vie, ils se sont surveillés, c'est-à-dire qui se mariait avec qui, quoi. Quand elle apprend qu'il se marie alors qu'elle vient de divorcer, elle est un peu furieuse. Ça a toujours été une compétition, mais au bout du compte, on se rencontre, et notamment quand il se retrouve à Capri, que cet amour-là, finalement, c'est peut-être sa plus belle histoire, malgré tout, c'est sa plus belle histoire.
Alors, en tout cas, c'est sa première histoire. Sa première histoire est toujours extrêmement importante, belle, surtout quand on la vit comme une espèce de conte de fées à un âge très jeune. Oui. Donc, c'est vrai que c'est sa première histoire d'amour, c'est sans doute la plus forte, c'est celle qui a duré le plus longtemps, c'est son plus long mariage. Oui. C'est aussi quelque chose qu'il y a entre eux qui les isole du reste du monde, c'est-à-dire leur éducation française tous les deux, puisque lui était fils de diplomate et que son père a été éduqué en France
tout à fait. Donc il parlait tous les deux français.
Ils parlaient tous les deux français. Ouais. Ils avaient cette éducation européenne que n'avaient pas les autres. Donc quand ils se sont rencontrés, c'est une espèce de magie entre les deux qui opère. Et puis, cet amour, effectivement, qui est un véritable amour de jeunesse, qui va les poursuivre toute leur vie, parce qu'il y a quand même ce lien entre eux aussi, cette île, cette connaissance du pouvoir, cette connaissance du chef, cette connaissance des rouages, quand même, politiques et sociaux de cette île, et puis cette tropicalité, c'est-à-dire, je sais pas, ces couleurs, ces parfums.
Le soleil, musique, les parfums, les fleurs, la musique.
Qu'on rencontre nulle part ailleurs. Et c'est vrai que Flore est vraiment très typique de cette insularité, de cette tropicalité, et Porfirio aussi. Et c'est vrai que les gens qui vivent dans des îles ont un lien très particulier avec leur territoire. Oui. Donc c'est aussi ça qui fait leur lien, et un lien qui se dessoudra finalement jamais au fil du temps, puisqu'ils vont se revoir au fil de leur vie. Oui. Lui fera des appels du pied, elle ne répondra pas toujours, mais en tout cas il y a quelque chose entre eux qui ne se dissout jamais. C'est peut-être ça l'essence d'une belle histoire d'amour, même si elle s'est fracassée sur la réalité.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire aussi que elle a essayé d'avoir des enfants sans succès, et puis après avoir consulté, elle s'est aperçue que malheureusement elle était stérile. Est-ce qu'on peut dire, Catherine Bardon, que pour elle, ça a été quand même un drame de ne pas avoir d'enfants?
Alors, oui. Bien sûr, pour elle, ça a été un drame de ne pas avoir d'enfants, parce que des enfants, d'abord, auraient fait plaisir à son père. C'est terrible de dire ça, mais son père aurait eu le sentiment, avant d'avoir d'autres enfants, d'avoir une lignée, d'établir une lignée. Et puis, c'est le rôle de la femme. La femme dominicaine était à l'époque, en tout cas, très soumise dans une société catholique. C'était la mère de famille. C'était vraiment la mère des... Voilà, elle devait fonder un foyer. Alors, est-ce qu'elle aurait été heureuse d'avoir des enfants? Je suis pas sûre, parce que ses enfants seraient aussi tombés sous la coupe de son père. Et ce que je me suis demandé, sans avoir la possibilité d'y apporter une réponse, c'est est-ce qu'elle était réellement stérile, physiologiquement, physiquement, ou est-ce que c'est sa tête qui a dit non, c'est son esprit qui lui a refusé des enfants?
Peut-être.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je formule cette hypothèse. Pour moi, elle est très plausible. Connaissant les relations qu'elle avait, les relations avec sa famille, les relations avec son père, elle s'est peut-être interdit finalement d'avoir des enfants.
Oui, et ça crée peut-être un blocage physiologique. C'est fort possible. C'est fort plausible. Eh bien, j'espère que ce qui ne va pas faire de blocage, c'est la petite pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après avec Catherine Bardon. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Catherine Bardon pour son dernier ouvrage, La fille de l'ogre, aux éditions Les Escales. Alors, il y a eu plein de choses dans sa vie. Ce qui est assez amusant, entre guillemets, je mets vraiment de gros guillemets, c'est les différences de tous les hommes qu'elle a rencontrés. Il n'y en a pas un qui est similaire à un autre. Les histoires sont bien sûr très différentes, la façon dont elle les a rencontrés aussi, mais il n'y a aucun point commun. Le seul point commun, c'est que le père met haro sur la relation et l'oblige à se marier, mais c'est la seule différence. Sinon, ils sont tous très différents.
Oui, elles sont tous très différentes, mais je pense qu'elle était aussi une femme multiple. Elle était une femme très ouverte sur l'international du fait de son éducation et puis de ses voyages. Avec Porfirio, dans son premier mariage, elle est partie en ambassade en Allemagne, dans la Malaisie et puis en France. Donc, elle avait cette ouverture internationale, donc elle parlait plusieurs langues, elle était ouverte sur ces cultures-là. Elle était aussi très attirée par le domaine artistique, le domaine
la peinture.
Des arts, la peinture, la culture. Donc c'était une femme multiple et effectivement, au hasard des rencontres, finalement, elle a eu des coups de cœur qui sont... ça ne correspondait pas à un type d'homme, bien sûr. La question qu'on peut se poser malgré tout, c'est est-ce que à travers ces rencontres, à travers ces hommes qui ont émaillé sa vie, elle recherchait pas une figure paternelle et quelqu'un qui finalement aurait pu peut-être la protéger. De l'influence de son père.
Oui, parce que quand elle parle par exemple du chirurgien qui l'a sorti de la drogue, de la boisson, il l'emmenait marcher dans la montagne, elle se sentait protégée. Elle a été relativement sereine dans cette relation. Elle se sentait bien parce que c'était simple. Ils marchaient, ils allaient au cinéma. C'était peut-être à des moments où je l'ai senti bien avec le chirurgien.
Oui, d'abord elle est bien au niveau de sa santé, qui était fragile puisqu'elle était victime quand même de d'addiction et qu'elle souffrait d'anorexie. C'est son corps qui répondait, j'imagine, à la pression de son père et finalement à sa cruauté aussi. Effectivement, dans cette période, elle s'est sentie protégée, prise en main parce que cet homme était un médecin aussi qui veillait sur elle, et elle s'est sentie loin de l'influence de son père qui finalement a fini par la rattraper, et c'est pour ça que le doute est toujours resté sur la mort naturelle ou pas de cet époux-là.
Oui. Alors une chose aussi, c'est son père lui a fait pas mal de demi-frères et de demi-sœurs avec ses nombreuses épouses. Et moi, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup touchée, c'est ce frère en qui elle avait mis un peu de confiance, qu'elle pensait loyal, qui au moment de la chute du père lui avait affirmé « Oui, je m'occuperai de toi, ne t'inquiète pas, je te verserai de l'argent ». Et finalement, ils sont partis en Espagne, il l'a laissé tomber, il l'a trahi. Et ça me fait très mal parce que elle l'aimait, ce frère, elle lui avait donné sa confiance, elle lui avait mis un peu d'espoir dans cette relation.
Oui, c'est-à-dire que effectivement au décès de son père, elle s'est un petit peu mise rangée sous l'aile de ce frère, qui d'ailleurs prétendait succéder à son père. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce frère-là était aussi monstrueux que l'était le père. L'ambition et l'intelligence en moins, sans doute. Et finalement, c'était un mauvais choix parce que finalement, ce n'était qu'un demi-frère et que ses motivations étaient très égoïstes. Et le clan des Trujillo qui l'a exclu finalement, elle n'en a jamais réellement fait partie. Elle avait ce nom, elle était la fille aînée, mais elle n'était pas, elle faisait pas partie de ce clan-là qui a d'ailleurs émigré en bloc, d'abord en France, ensuite en Espagne et ensuite aux États-Unis. Donc, elle a été trahie par beaucoup de monde. Puis je crois qu'elle avait une certaine naïveté, elle avait tellement envie d'être aimée, elle avait tellement envie de donner de l'amour qu'elle le faisait de façon un peu aveugle, sans grand discernement.
Oui. Alors sur la couverture du livre, elle est au bras de son père, et ce qui marque, c'est ce sourire éclatant, plein de dents. Elle est très mince, très fine. Elle a toujours été entre l'anorexie et la boulimie, etc. Comment avez-vous trouvé cette photo? Alors, je crois que c'est lors d'un gala ou d'une soirée à New York, cette photo.
Oui, c'est dans sa période new-yorkaise, lors de son deuxième mariage, donc elle est très jeune. Et en fait, cette photo est une photo qu'on a eu du mal à trouver parce qu'il fallait trouver une photo de bonne qualité. Mmh. Et les photos publiques étaient de très rares et de mauvaise qualité. Et en fait, c'est une photo que l'iconographe des escales a trouvée dans les archives nationales dominicaines, qui nous ont donné l'autorisation de la reproduire. Mmh. Et c'est une couverture que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, elle est dans la lumière. Mmh. Elle a ce sourire qui montre aussi son caractère. Elle avait un caractère enjoué, naïf. Mmh. Un peu, elle est très juvénile sur cette photo. Elle est aussi très belle. Elle a une espèce d'aura hollywoodienne. Et sa vie, finalement, est un roman hollywoodien.
Complètement.
Et donc, et son père est dans l'ombre, mais elle est quand même, c'est très symbolique de sa vie. Et ça exprime aussi, enfin, ça relie au titre. Elle est quand même très agrippée à son bras. Quoi. Oui. Il est dans l'ombre, mais il est omniprésent et elle est agrippée à son bras. Mmh. Donc, elle est dans la lumière, il est dans l'ombre, mais il restera dans l'ombre de sa vie. Tout le temps, tout au long de sa vie.
Mais ce qui est impressionnant sur la photo, c'est que, pour le coup, lui, effectivement, est dans l'ombre, et je trouve qu'il fait une mine un peu contrite. On se demande s'il est bien à l'aise, vous voyez, en étudiant bien, j'ai regardé ça à la loupe, il a pas l'air très à l'aise ce jour-là,
Parce que la photo met en lumière sa fille, probablement que le photographe a voulu magnifier sa fille et le laisser lui dans l'ombre. Et c'est un homme qui n'acceptait pas d'être dans l'ombre. Mmh. D'ailleurs, il avait développé un tel culte de la personnalité qu'il voulait toujours être sur le devant de la scène et bien visible, ce qui n'est pas le cas dans cette photo. Mmh. Mais je trouve que c'est une couverture. D'abord, je trouve que c'est une très belle photo d'archives.
C'est très beau.
Puis elle est rare. Oui. Et puis, c'est une photo qui illustre totalement le contenu du livre et finalement qui est très symbolique de la vie de Flore.
Oui. Alors on disait il a son père a été le dictateur de la République dominicaine de 1930 à 1961 à peu près. Elle est décédée, elle est née en 1915, elle est morte le 14 février 1968. Très jeune, elle était malade. 78, pardon. À 63 ans, c'est très jeune bien évidemment. Comment se fait-il? Alors, quel est aujourd'hui le regard des Dominicains, des gens de la République Dominicaine sur cette période de ces 30 ans de trio et comment se fait-il que finalement de sa fille on en connaisse si peu ou pas? Quel est le rapport par rapport à tout ça?
Alors c'est une période de l'histoire assez longue, hein, trois décennies, c'est pas rien dans l'histoire d'un pays, surtout que c'est un pays qui est sorti de l'ombre finalement au XXe siècle. Ouais. Donc c'est une période importante et c'est une période qui a permis aussi de sortir le pays. Je vais schématiser, mais on va dire du Moyen-Âge avec la construction d'infrastructures, la scolarisation, etc. Donc c'est à ce moment-là, au travers de cette dictature, que le pays a commencé à compter sur la scène internationale. Oui. Malgré tout, c'est une période noire pour les Dominicains, puisque c'est une période, c'est une dictature absolue, c'est-à-dire aucune liberté, beaucoup d'exactions, l'élimination de tous les opposants politiques, la censure,
la torture,
le contrôle de tous les citoyens, des espions partout, un réseau d'espions incroyable.
Partout. Oui, ce qui est incroyable, c'est que Flore, quoi qu'elle fasse, il était au courant de tout.
Oui, il a des ambassades dans le monde entier, enfin, en tout cas dans les principaux pays. Oui. Donc, au travers de ses ambassadeurs et de ses secrétaires d'ambassade et de ses hommes de main, il peut tout savoir. Oui. Donc, il avait développé un système d'information extrêmement puissant. Enfin, il a beaucoup agi en Amérique latine, notamment pour essayer de déstabiliser des gouvernements qui ne lui plaisaient pas. Donc, c'était un homme extrêmement puissant à son époque. Et quand il est mort, d'ailleurs, c'était la cinquième fortune du monde. Effectivement, c'est une période noire pour les Dominicains et c'est vraiment une période qui a été non pas gommée de leur histoire parce qu'on peut pas faire abstraction de 30 ans, mais c'est une période dont ils ne sont pas fiers et dont ils parlent très très peu. Tous les éléments qui rappelaient la dictature ont disparu. Bon, donc la dictature n'existe et le dictateur n'existe plus que dans des livres et dans des archives. Toutes les manifestations, tout a été rebaptisé, toutes les statues ont été déboulonnées, etc.
Oui, parce qu'il y avait une ciudad de trio, hein, carrément.
Trop Rio.
Je ne vais pas y arriver, Trop Rio.
C'est pas facile à prononcer. Non, oui, il avait rebaptisé la ville, l'aéroport, les montagnes, les rues à son nom. Donc tout ça a disparu et ils en sont pas fiers, bien sûr. Et c'est une période plutôt oubliée. Je parierais même que beaucoup de jeunes écoliers ignorent tout de cette période. Donc, a fortiori, sa fille, qui était quelqu'un de discret, quelqu'un qui n'a pas compté dans l'histoire du pays, forcément, elle a été oubliée, elle aussi. D'ailleurs, elle était peu connue, un peu visible du temps où elle vivait. Donc, effectivement, après son décès, elle a été complètement oubliée.
Alors, c'est la seule de son nom qui porte, qui est enterrée à côté de sa mère en République dominicaine. C'est la seule. Est-ce qu'il y a des descendants aujourd'hui, puisqu'elle a eu nombreux demi-frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des descendants?
Alors oui, bien évidemment, il y a des descendants, notamment aux États-Unis, des descendants qui sont des petits ou arrière petits enfants de Trujillo, puisqu'il a eu énormément, enfin il a eu 9 enfants officiellement reconnus et beaucoup de bâtards. Donc, mais même parmi les 9 enfants reconnus, effectivement, ils ont ils sont mais le nom a changé. Ce n'est plus qu'une descendance qui s'est presque évaporée. La trace ancestrale finalement a été un peu gommée parce que parce que c'est pas très glorieux.
Oui, bien sûr. Alors, dans votre ouvrage sur les déracinés, il y a deux événements qui apparaissent rapidement, bien sûr, dans la fille de l'ogre. C'est l'arrivée de ces immigrants juifs, leur effet a donné quelques terres, et donc ça fait l'objet de déracinés. Et également, ça a été aussi probablement ce qui a mis le feu aux poudres, l'assassinat des 3 sœurs. Alors, à chaque fois, je déforme leur nom, c'est les 3 sœurs Miraval, c'est ça leur nom de famille. Qui ont été assassinées en allant voir leur mari qui était emprisonné, puisque c'était des opposants. Et donc, vous en parlez un petit peu, effectivement, la fidéologue, vous faites le rapport aussi par rapport, pour expliquer la dictature et un peu la fin de l'empire du réfé aussi.
Oui, c'est vrai que cet assassinat de 3 jeunes filles qui appartenaient à la bonne bourgeoisie dominicaine, vraiment très jeunes femmes, qui ont été assassinées avec leur chauffeur dans un simulacre d'accident de voiture, mais elles ont été il semblerait qu'elles aient été aussi violées et assassinées, et non pas simplement précipitées dans le précipice avec leur voiture, mais bien bel et bien assassinées avec violence. Donc cet assassinat est celui qui a, on peut dire que c'est presque la goutte d'eau qui a fait déborder le vase déjà bien plein de la dictature. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le 25 novembre, qui est le jour de la lutte contre la violence faite aux femmes, est la date anniversaire de leur assassinat. Donc ça, c'est une date qui a été choisie internationalement, et ces 3 sœurs sont mises à l'honneur ce jour-là.
Elles sont devenues un symbole.
Elles sont devenues le symbole de la chute de la dictature, mais aussi le symbole des femmes violentées et de ce que on ne veut plus voir se produire.
Oui. En tout cas, c'est un livre magnifique. Elle est à la rencontre, si je puis dire, d'une femme, moi, qui m'a inspirée de l'amitié, de l'affection, de la pitié, non, mais elle m'a beaucoup bouleversée. Et puis je le disais, c'est très bien écrit, très bien raconté, bien évidemment. C'est du grand Catherine Bardon, si je puis dire. La fille de l'ocre aux éditions Les Escales. Ça a été un vrai bonheur. Rapidement, vos prochains projets d'écriture, Catherine.
Écoutez, c'est un petit peu prématuré pour en parler. D'accord. Parce que La fille de l'ocre vient de sortir, encore emmener les lecteurs dans des voyages lointains, donc peut-être en République dominicaine, peut-être dans un autre territoire. J'ai plusieurs idées qui sont en train de
germer.
Mûrir.
D'accord. Voilà. Merci infiniment. La fille de l'ocre avec Catherine Bardon aux éditions Les Escales. Merci infiniment. J'étais ravie de vous rencontrer. On peut le dire aux auditrices, auditeurs, lors d'une signature à l'excellente librairie du Hérisson à Montargis, et puis de vous recevoir à ce micro. Voilà, c'était un vrai bonheur.
Merci beaucoup, Claudine, de m'avoir reçue.
Avec grand plaisir. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Quant à nous, nous nous retrouvons pour d'autres aventures littéraires. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Merci. Au revoir.